France Inter.
Et voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Le suicide d'une adolescente en Seine-et-Marne. En début de semaine, elle se disait victime de harcèlement scolaire. Et depuis deux jours, ses camarades lycéens se mobilisent. Deux enquêtes sont ouvertes, nous sommes sur place dans un instant. À suivre encore, le gouvernement peut-il être renversé sur le dossier brûlant du budget ? Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'exprime ce soir. Il hésite entre 49.3 et ordonnance. Les oppositions menacent, nous verrons cela. Le procès en appel du Rassemblement National et de ses cadres pour détournement de fonds publics. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Un procès qui prend déjà une tournure différente.
Oui, les faits sont les mêmes, les enjeux aussi pour la présidentielle, mais les montants reprochés et l'attitude de la défense sont eux nettement différents.
A tout de suite, dans les prochaines minutes, nous appellerons également notre correspondant en Iran. Il nous racontera ses aveux arrachés aux manifestants anti-régime contraints d'avouer un complot fomenté par Israël. Nous irons à Madrid, l'Espagne sous le choc des accusations de viol contre Julio Iglesias, le chanteur qui dément. Et puis ce championnat étonnant, championnat de France du plus beau calendrier de pompiers. Deux communes bretonnes sont en finale. À partir de 13h30, l'homme qui remplit les salles, le metteur en scène et auteur de théâtre, Sébastien Azopardi sera avec nous. Quatre de ses pièces sont à l'affiche en ce moment à Paris. L'une d'elles a dépassé les 4000 représentations. Quelle est la recette ? 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Les phoques sont de plus en plus nombreux le long de nos côtes. Virginie Troussier les a observés, elle nous raconte. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. L'humoriste Alex Ramirez demande la chanteuse Sia.
Dès que j'ai ce sentiment de rejet face à une homophobie débile et pure, souvent je vais mettre cette chanson. Cette chanson me permet vraiment d'avancer. On ne sait pas ce qui va se passer, mais pendant au moins 3 minutes, on est le meilleur. Qu'est-ce que ça fait du bien ?
Et ce sera avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Elle s'appelait Camélia, 17 ans, et elle allait au lycée à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne. Mardi après-midi, elle s'est suicidée en gare de Villeparisis-Mitry. Percutée par un train, elle s'était allongée sur les rails. Hier matin, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant son lycée pour dénoncer le harcèlement scolaire dont elle se disait victime depuis des mois. Le parquet de Meaux a ouvert une enquête pour harcèlement scolaire ayant conduit la victime à se suicider. Le ministère de l'Éducation nationale, de son côté, demande une enquête administrative. Bonjour Raphaël Benabdelmoumen.
Bonjour.
Vous êtes sur place à Mitry pour Inter et vous avez pu rencontrer ce matin des élèves, des lycéens qui refusent de retourner en cours. C'est la colère ?
Oui, devant les grilles de ce lycée à la façade moderne au milieu des champs, ils sont plusieurs dizaines réunis depuis ce matin pour témoigner d'un vrai mal-être.
On veut être écoutés ! On veut être écoutés !
Asia, élève en classe de première, a le sentiment d'être abandonnée.
On a l'impression d'être que nous les élèves contre ça. On a l'impression qu'aucun adulte vient nous aider. On a l'impression qu'ils se moquent de nous. Ils nous regardent par la fenêtre en souriant. Carrément, ils ricanent en nous regardant. Et ça, ça nous fait de la peine parce qu'on va être plus soutenus. Parce que nous, ça nous tient à cœur et on aimerait bien aussi qu'ils nous aident dans ça.
D'autant que ce qui est arrivé à Camélia fait malheureusement écho à beaucoup d'autres récits dans le lycée, d'après Nina.
Il y a eu plein de témoignages comme quoi il y a plein de personnes du lycée qui ont toujours été harcelées, qui se sont plaintes et justement il n'y a eu aucune mise en place pour rien du tout. Et donc là on est là pour manifester, on est là pour changer les choses et pour se faire entendre parce que c'est pas normal en fait d'ôter sa vie à 17 ans.
À côté d'elle, Léa en terminale hoche la tête, le harcèlement, elle l'a vécu et le vit encore.
Depuis la seconde, je me fais harceler et il n'y a rien qu'à changer. Il y a des vidéos qu'ils ont tournées sur moi, je sais que c'est qui les personnes qui ont fait ça. Et quand tu le dis au CPE et tout, ils citent quoi ? T'as qu'à pas être sur les réseaux, ça t'arriverait pas. Si les gens le disent, c'est que c'est vrai. Donc ils nous demandent d'en parler, ils le disent partout, d'en parler, mais quand on en parle, derrière c'est toi tu te prends tout.
Et elle, comme ses camarades, veulent des mesures concrètes, des sanctions contre les harceleurs et pas juste de nouvelles affiches de sensibilisation dans les couloirs du lycée.
Raphaël Benabdelmoumen avec les moyens techniques de Raymond Alboui. Une cellule psychologique a également été mise en place au sein de l'établissement, mais aussi une protection fonctionnelle pour son proviseur qui a lui aussi été menacé sur les réseaux sociaux. Dans le Tarn, un père d'élève accusé de violence et de menaces à caractère terroriste sur une élève. Il a été placé en garde à vue hier après-midi. Les faits ont eu lieu à Saint-Benoît-de-Carmaux, collège Augustin Malroux. Cet homme a fait référence dans ses menaces au meurtre de Samuel Paty. Cet homme est depuis en garde à vue. Précisément, le procès en appel des quatre personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de Samuel Paty, c'était en 2020 à Conflans. Ce procès débutera dans 10 jours et à l'approche de ce rendez-vous, Ses proches et membres de son comité de soutien demandent aujourd'hui que le professeur, assassiné par un terroriste islamiste, soit panthéonisé. Ce serait un geste majeur pour les enseignants, estime l'une de ses sœurs, Gaëlle Paty.
C'est vrai que c'est quelque chose qui traîne quand même dans les idées de beaucoup de gens depuis quelques années, peut-être même depuis sa mort, de faire rentrer mon frère Samuel au Panthéon. Moi, ce qui me motive avant tout, c'est pas de le rendre héros, parce que comme je l'ai toujours dit, ce n'était pas un héros, c'était un simple professeur comme tous les autres professeurs de France. Mais c'est de rendre hommage à tous ces professeurs, enseignants sur le terrain qui n'attirent pas la lumière, mais qui pourtant ont une mission fondamentale pour qu'on puisse faire nation. Et aujourd'hui, on voit bien que dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit en France, en Europe ou partout dans le monde, faire nation, c'est de plus en plus compliqué. Donc le rôle des enseignants est de plus en plus compliqué, mais aussi de plus en plus indispensable pour former les citoyens.
Gaëlle Paty au téléphone de Sarah Guibaudot, son livre aux éditions Flammarion, Samuel Paty, Un procès pour l'avenir, c'est le titre. À Poitiers, dans la Vienne, le président de l'UMI, le syndicat de la restauration, cet homme a été mis en examen pour détention, importation et captation d'images de mineurs à caractère pornographique. Cet homme de 40 ans, mis en examen, donc placé en détention provisoire à Poitiers. Il s'agit bien donc du président de l'UMI de ce département. Retour à la case départ, c'est l'actualité politique de cette fin de semaine. Retour à la case départ pour le Premier ministre Sébastien Lecornu. Voilà des jours qu'il cherche une issue, un compromis à l'Assemblée pour faire voter le budget 2026. Il s'est rendu compte hier qu'il y était dans une impasse. Deux solutions pour lui, le vote par 49-3. Il avait promis de ne pas s'en servir et il y a un risque que son gouvernement soit renversé, ou bien un passage par les ordonnances. Le Parlement serait alors complètement contourné. Et ce serait une première. Voilà le dilemme posé. Bonjour Julien Nenni.
Bonjour Jérôme.
Sébastien Lecornu continue de négocier pour éviter cette censure et il va s'exprimer ce soir.
Oui, allocution solennelle du Premier ministre ce soir, donc depuis la cour de Matignon. Non pas, sauf changement de dernière minute, pour annoncer son choix entre 49-3 et ordonnance. Ça sera pour mardi au plus tard, mais plutôt ce soir pour présenter sa copie finale, ses derniers arbitrages sur le fond de ce budget si laborieux. D'après nos informations, au moins 4 sujets sont sur la table dans ces dernières heures de négociation. D'abord la fiscalité, notamment le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Ensuite les collectivités, comment mieux répartir les économies réclamées aux régions, départements, communes et intercommunalités. Mais aussi l'environnement et le logement, deux thèmes sur lesquels Sébastien Lecornu pense pouvoir conclure un accord, par exemple sur le statut du bailleur privé ou sur le fonds vert.
Qu'en disent les oppositions ?
Alors, c'est surtout côté socialistes que la pression est forte, parce que ce sont avant tout eux, les 69 députés PS, qui ont le doigt sur la gâchette. En cas de 49-3, ils sont ouverts à un accord de non-censure avec le gouvernement, c'est ça qu'ils négocient depuis une dizaine de jours sur les différents points qu'on vient d'évoquer. En cas d'ordonnance, en revanche, c'est clair, le député PS Philippe Brun, pourtant modéré, a été sans détour ce matin sur France Info.
En tant que député, si jamais cela arrivait, je prendrais mes responsabilités et je voterais une motion de censure et même la destitution du président de la République.
Moins de risques pour le gouvernement côté LR en revanche, sauf grand virage à gauche du Premier ministre ce soir, les troupes de Laurent Wauquiez ne devraient pas voter la censure au nom de la stabilité.
Merci Julien Nenni. Le ténor secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, lui, annonce sa candidature à Saint-Amand-les-Eaux. Ça n'était qu'un secret de polichinelle puisqu'il est le maire sortant et les maires depuis un an de cette commune du département du Nord. Sauf si la séquence politique du moment se termine par une dissolution, c'est toujours possible. Le seul scrutin du printemps sera celui des municipales. Donc les candidats continuent de se déclarer et cela fait remonter à la surface leur prise de position passée. Ainsi, en Haute-Vienne, commune de Condat, 5000 habitants, le Rassemblement National se désolidarise et désinvestit son candidat après des révélations de publications sur les réseaux sociaux, des posts racistes, colonialistes, voire négationnistes qui sont toujours visibles. L'un de ces posts relaye une fausse information sur le massacre d'Oradour-sur-Glane, Garance Caillé.
Revenons 4 ans en arrière, le 8 mai 2022. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky évoque la tragédie d'Oradour dans une vidéo de commémoration de la Seconde Guerre mondiale. Cela avait alors choqué certaines voix pro-russes et un tweet avait été massivement relayé sur les réseaux sociaux. Quelques lignes sur fond blanc qui imputent le massacre d'Oradour en juin 1944 à des Ukrainiens nazifiés, fin de citation. Un mensonge relayé à l'époque par Jean-René Garino, aujourd'hui candidat à l'élection municipale de Condat-sur-Vienne. Ce n'est pas le seul contenu pro-russe qu'il a publié. Sur son compte Facebook, on peut également trouver des dizaines de posts racistes ou qui présentent la colonisation française sous un angle positif. À l'heure actuelle, Jean-René Garino n'a pas encore effacé ses publications. Dans un communiqué, le Rassemblement national dit ne pas avoir eu connaissance des posts de son ex-candidat. Le parti lui a retiré son investiture hier soir. Il pourra toujours se présenter à l'élection de mars prochain, mais pas sous l'étiquette du RN.
Précision ici Limousin, le Rassemblement national et plusieurs de ses cadres devant la justice depuis mardi, l'affaire du détournement de fonds publics au Parlement européen jugé en appel. Parmi les personnalités du parti condamnées en première instance, Marine Le Pen. C'est donc un procès qui a une importance capitale sur la route de l'élection présidentielle de l'an prochain. Voilà pourquoi chaque semaine dans ce 13-14, nous prendrons le temps de revenir à la fois sur les temps forts, mais aussi sur ce qui a pu nous échapper. Avec vous, Charlotte Piret, c'est vous, Charlotte, qui suivez ce procès pour Inter. On peut déjà dire qu'il n'est pas le copier-coller du premier.
Oui, pourtant les faits sont les mêmes, hein, le dossier, les prévenus, même s'ils ne sont plus que la moitié aussi. Mais on avait vu au premier procès une défense dans l'affrontement avec le tribunal. Cette fois, le ton est polissé, l'attitude presque déférente et le propos beaucoup plus axé sur le droit que sur la politique.
Sur le fond, Charlotte, les débats ne sont pas les mêmes non plus. On a par exemple beaucoup parlé cette semaine du préjudice financier de ces emplois fictifs pour le Parlement européen. On avait retenu au premier procès le chiffre de 4 300 000 euros. En fait, le préjudice serait moins important.
Alors, pour comprendre, il faut revenir au premier jour du premier procès, lorsque la présidente avait égrené les montants des détournements reprochés à chacun des prévenus. Tableau à la pluie. Et ce tableau avait fait bondir la défense car il reprenait alors des contrats sur lesquels les prévenus n'avaient pas été interrogés pendant l'instruction. Avec un différentiel total de près d'1,5 million d'euros tout de même. Une somme que le parquet général, c'est-à-dire l'accusation pour ce nouveau procès en appel, a décidé de ne pas prendre en compte. Alors, pas pour faire un cadeau au Rassemblement National, mais plutôt pour sécuriser juridiquement le dossier. C'est-à-dire se concentrer sur les faits qui sont juridiquement incontestables selon eux, dans la perspective notamment d'un pourvoi en cassation de Marine Le Pen, dont la défense n'a toutefois pas manqué de se réjouir de ce qu'elle considère comme un adoucissement de l'accusation.
En revanche, la défense est moins réjouie hier après-midi de l'audition du premier prévenu, ancien compagnon de route de Jean-Marie Le Pen.
Oui, Fernand Le Rachinel, 83 ans, la mise élégante, la main tremblante. Il a fait partie de ceux qui ont assez largement reconnu les faits au cours de l'enquête. Alors, difficile de faire machine arrière à la barre, lui qui pourtant assure n'avoir jamais commis d'infraction de sa vie, mais dont les deux assistants parlementaires étaient en réalité le garde du corps et la secrétaire personnelle de Jean-Marie Le Pen. Je ne savais pas que c'était illégal, Martel, cet ancien chef d'entreprise, et même président du tribunal de commerce de la Manche. Vous savez que la personne à qui vous versez un salaire vous doit un travail, à vous, pas aux voisins, s'agace la présidente. Il y avait 300 ou 400 députés qui faisaient la même chose à l'époque, tant encore le prévenu en plein naufrage, hein, on peut le dire. Derrière lui, Marine Le Pen secoue la tête. L'avocat général, lui, assène. Est-ce qu'à force de détourner le regard, vous n'avez pas fini par détourner de l'argent public ?
Merci Charlotte Piret. Ce procès se poursuit jusqu'au 12 février.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Les rues de Téhéran, quadrillées par les forces de sécurité du régime. C'est l'une des images de la répression qui s'abat depuis une semaine maintenant sur les manifestants qui demandent la fin de la République islamique d'Iran. Au moins 3400 morts, selon l'ONG Iran Human Rights. Peut-être beaucoup plus difficile d'établir un bilan précis alors que le réseau Internet est coupé depuis 8 jours maintenant. Et pour dissuader toute nouvelle protestation, le pouvoir met désormais en scène les aveux des manifestants arrêtés. Des aveux arrachés et diffusés à la télévision officielle, ce que nous explique Siavosh Ghazi, notre correspondant à Téhéran.
Il y a eu plusieurs vidéos qui ont été publiées par la télévision d'État. Notamment, par exemple, on voit une femme de dos face au chef du pouvoir judiciaire. Cette femme dit par exemple qu'elle avait contacté via WhatsApp ou Telegram des responsables israéliens ou des comptes en persan de différents organes israéliens et avait même envoyé un message au Premier ministre israélien pour lui demander de l'aide. Elle dit qu'elle a fait une erreur. Bien évidemment, on peut qualifier ces aveux d'aveux forcés. Dans une autre vidéo, on voit une autre jeune fille toujours dodo, où elle raconte qu'elle avait, avec d'autres membres de sa famille et un ami, balancé des pierres sur des forces de l'ordre qui étaient stationnées dans la rue. Et à ce moment-là, on entend un membre donc de la justice présent sur les lieux, dans cette salle, qui ajoute que l'un des membres des forces de l'ordre a été blessé grièvement par ces pierres qui ont été lancées du toit d'une maison.
Siavosh Ghazi, correspondant en Iran de RFI et de France Inter. Alors, dans un premier temps, le président américain Donald Trump avait menacé l'Iran d'intervention militaire en cas de massacre de sa population, avant de changer brusquement de ton hier matin. Dans ce contexte, la France doit faire plus. C'est l'appel lancé ce matin par le grand photographe iranien Reza, exilé en France depuis 1981. Tribune dans le journal Libération intitulée « Monsieur Macron, agissez, les ayatollahs ont transformé mon pays natal en abattoir ». Fin de citation, il s'en explique.
On parle de 20 000, moi, des informations que j'ai un peu des autres villes de l'Iran, des petites villes et autres, persuadé que ça va dépasser 30 000, même plus, les gens qui étaient tués par une balle dans le nuque, par 3 mètres, 4 mètres, c'est-à-dire les gens de services secrets qui se sont mis dans la population, comme les manifestants, et les moments venus, avec leurs armes, ils ont tiré dans le nuque des manifestants avec une seule balle, ou les francs-tireurs sur le toit, ou les milices qui tirent avec le shotgun, avec les fusils de chasse. Il y a des milliers de gens, des jeunes qui ont perdu les yeux à cause de ça. Et les ayatollahs, ils ont donné un fatwa que ces manifestants, ce sont des agents d'Israël et CIA, donc ils sont l'ennemi de l'islam, dont les filles ou les femmes arrêtées, ils sont comme les tribus de la guerre et vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'est la dernière nouvelle, le plus terrible qu'on peut entendre de ce pays, comme je écrivais que c'est un abattoir.
Ce sont des témoignages que vous avez eus directement ?
Ce sont les témoignages le plus direct possible. Moi, j'ai des contacts directement avec les gens qui étaient dans le morgue à la recherche de leur famille, à la recherche des gens. De plus en plus, il y a des informations qui arrivent, même s'ils ont coupé Internet, mais ils continuent à tuer les gens et à arrêter les gens.
Quand vous demandez à Emmanuel Macron d'agir au nom de la France, vous pensez à quel type d'action ? Une action militaire ?
L'action militaire, ça ne marchera pas, malheureusement. Mais vous savez, le régime iranien, malgré toutes les sanctions, ils vendent 3 millions de barils par jour de pétrole. Où sont ces sanctions ? C'est ça qu'ils pourraient, en première action, de vraiment étrangler ce groupe criminel qui est le gardien de la révolution, ce groupe de mafia qui sont les mollahs et les ayatollahs iraniens. Il y a plusieurs dizaines de milliers de ces gens maintenant connus qui sont en Europe, qui sont dans les universités, qui sont dans les médias, qui mènent une vie extravagante dans toute l'Europe et les États-Unis. Et ça, c'est pas normal que on les laisse rentrer avec leurs millions de dollars dans les banques et on leur met le tapis rouge. Ça, c'est pas normal. Et c'est de ça que je parle. Il y a un moment, il faut que la France montre ce que le monde regarde, de façon que le monde entier, il voit la France comme le porte-drapeau d'une culture, d'une civilisation qui est la civilisation de l'Occident.
Le photographe franco-iranien Reza, qui a quitté son pays, l'Iran, depuis 1981, entretien enregistré il y a quelques minutes. C'était l'une des interrogations l'été dernier, quand Donald Trump avait annoncé les droits de douane qu'il comptait infliger aux produits importés aux États-Unis. Des pays alliés des Américains se retrouvaient davantage taxés que les autres, et c'était par exemple le cas de Taïwan. Finalement, les deux pays, Taïwan, les États-Unis, ont trouvé un accord officialisé ce matin. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Inter en Chine. Sébastien, en échange de cet accord, donc moins de droits de douane infligés par les Américains, mais en échange, Taïwan, le principal pays producteur de semi-conducteurs au monde, accepte d'investir massivement aux États-Unis et d'y transférer une partie de sa production.
Oui, c'était le prix à payer pour éviter les 32% de droits de douane que Donald Trump voulait à l'origine imposer aux produits taïwanais. Le président américain y a finalement donc renoncé, mais en échange, Taïwan a dû faire de lourdes concessions sur un secteur qui fait partie de la souveraineté de l'île, les semi-conducteurs, en particulier les puces les plus avancées qui servent à développer les intelligences artificielles. Les entreprises taïwanaises, qui sont leaders dans ce domaine, doivent donc transférer une partie de leur production sur le sol américain avec une obligation d'y investir massivement au moins 250 milliards de dollars. Le texte doit désormais être examiné au Parlement taïwanais avec un vote qui n'est pas assuré. En effet, l'opposition du Kuomintang qui domine le Parlement n'y est pas favorable. Sans surprise, Pékin de son côté dénonce un texte signé comme d'État à État et demande aux États-Unis de respecter scrupuleusement le principe d'une seule Chine.
Merci Sébastien Berriot en direct de Pékin. Aux États-Unis, on en sait plus sur la mort de Renee Good, cette mère de famille de Minneapolis tuée la semaine dernière par un policier de l'immigration. Selon un rapport des pompiers cité par plusieurs médias, son corps présentait 4 blessures par arme à feu. Quand les services de secours sont arrivés, les autorités de Washington, elles, assurent que le policier a tiré en état de légitime défense et jusqu'à présent, il n'a pas été mis en cause ni fait l'objet d'aucune poursuite ni suspension. Il sort de son silence, Julio Iglesias, légende de la musique hispanophone, star en Espagne, mise en cause cette semaine par le témoignage de 2 de ses anciennes employées. Elles ont déposé plainte en Espagne il y a 10 jours et elles dénoncent des faits de viol et d'agression sexuelle qui auraient eu lieu dans les résidences de l'artiste en République dominicaine et aux Bahamas en 2021. Julio Iglesias, 82 ans, dément aujourd'hui ces accusations absolument fausses. Selon lui, il s'exprime sur le réseau social Instagram. Mais dans son pays, en Espagne, sa personnalité jusqu'ici respectée et appréciée fait désormais l'objet de vives critiques. Reportage Mathieu de Taillac.
Les accusations d'agression sexuelle de 2 femmes, anciennes employées des Villas aux Caraïbes de Julio Iglesias, font beaucoup réagir les Espagnols. Elles sont le fruit d'une enquête de 3 ans du site d'information El Diario. Paola travaille dans le secteur culturel.
Julio Iglesias, c'est un jour des monuments musicaux hein, de l'histoire d'Espagne. Et d'un côté, ça m'étonne pas, surtout parce que chez les grands artistes dans l'histoire, parfois on retrouve qu'il y a eu aussi des ombres. Surtout parce que avant, les femmes, ils sont pas parlé de tous ces jours de problèmes et de violences qu'ils ont eu.
Le gouvernement de gauche prend position pour les présumées victimes. Ana Redondo, ministre de l'Égalité.
Les victimes doivent savoir que la loi est avec elles et que leur parole ne sera pas remise en cause. Le machisme est structurel. On peut être un excellent chanteur, un excellent artiste et avoir un côté très obscur, très machiste.
D'autres politiques à droite et une partie du public se veulent plus prudents. La présidente de la région de Madrid, par exemple, dit vouloir refuser de lyncher l'un des plus grands artistes du pays. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
C'est demain à Asunción, au Paraguay, en Amérique du Sud, que sera signé l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les 4 pays du Mercosur. Mais en France, les agriculteurs poursuivent leurs actions contre ce texte. Ainsi, ce matin, 150 d'entre eux se sont mobilisés à Aix-en-Provence, tandis qu'à Châteauroux, l'association Indre Naturea dépose plainte après le dépôt de déchets devant leurs locaux, l'équivalent de 8 bennes hier par le syndicat Coordination Rurale, qui a revendiqué l'action. Dans le département voisin, celui de la Vienne, plusieurs petites communes ont vu affluer les poids lourds contraints de contourner les axes bloqués par les agriculteurs. Résultat, aujourd'hui, des routes endommagées par le passage de semi-remorques qui ont été déviées. Exemple à Croutelles, 900 habitants aux portes de Poitiers, où s'est rendu Julien Morcelli.
Il a le visage dépité, le maire de Croutelles, Arnaud Rousseau, quand il regarde le principal rond-point de la commune situé à l'entrée de la ville.
Tout un tas de détritus qui ont été déversés. Alors c'est des mélanges de pneus, un petit peu de tout. Je pense qu'il y a de la terre, il y a des branchages. Et donc cet amoncellement, eh bien derrière c'est la collectivité qui se retrouve à devoir organiser l'enlèvement, le recyclage et tous les coûts qui en découlent.
Ces coûts, la commune n'a pas les moyens de les supporter. C'est donc Grand Poitiers qui assurera le nettoyage. Mais les ronds-points dégradés ne sont pas les seules conséquences des blocages.
L'entrée de Poitiers était complètement bloquée et donc les poids lourds ils cherchaient à passer par un endroit. Et donc notre voirie, malheureusement, n'est pas calibrée pour supporter un tel flot de véhicules.
Et effectivement, sous nos pieds, on mesure clairement l'impact du passage des camions.
Là, on constate que le revêtement a été enlevé par la giration des véhicules. Donc on se retrouve avec des trous dans la voirie. Ça veut dire que ça va coûter, oui, effectivement, de l'argent à la collectivité.
Contacter la communauté urbaine de Grand Poitiers indique être en train d'établir le chiffrage des dégâts liés aux manifestations agricoles qui pourraient se compter en centaines de milliers d'euros à l'échelle du département.
Reportage ici Poitou. Un hommage sera rendu demain à Marseille par les supporters de l'OM à l'ancien entraîneur du club Roland Courbis, décédé en début de semaine. Rassemblement populaire ce samedi après-midi sur la Canebière en parallèle de la messe qui est prévue également dans la ville. Un autre type de compétition, pas du football maintenant, une compétition plutôt inattendue en ce début d'année. On accroche les calendriers 2026. Cette compétition, c'est le 4e championnat de France des calendriers de pompiers. Si, ça existe.
Tout à fait.
Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Et il se trouve que deux communes bretonnes sont en finale. Bretagne Nord avec Lannion face à la Bretagne Sud avec La Roche-Bernard. Faites-nous vivre ce match.
Oui, alors ce qui est bien quand on appelle un pompier, c'est qu'on est tout de suite dedans.
On arrive. C'est bon ?
On est avec Franck, qu'on entend bien, à Lannion, chez un monsieur qui est tombé hier soir dans son jardin.
Monsieur, on vous ramène chez vous, on vous emmène pas à l'hôpital.
Voilà, pas d'hôpital pour le monsieur. Et en remontant dans le camion, Franck revient au championnat de calendrier.
Nous, on en est fiers. Alors, c'est une fierté. Et puis, ça permet donc de concrétiser le travail accompli, quoi.
Et lui, dans le calendrier, il fait le gondolier, comme à Venise, mais sur le Léguer, la rivière locale, puisque les pompiers de Lannion rendent hommage à l'Europe. Ceux de La Roche-Bernard Nivillac rejouent, eux, de grandes œuvres, La liberté guidant le peuple ou Le radeau de la Méduse. Je n'ai pas pu les avoir ce midi.
Qu'est-ce qu'ils aient ?
Un feu de maison. Jérôme, tiens, savez-vous combien ces ventes de calendriers rapportent chaque année aux pompiers ?
En France, à l'échelle du pays,
une caserne de pompiers comme celle de Lannion.
Je ne sais pas, je dirais quelques milliers d'euros.
80 000 euros à Lannion pour 10 000 calendriers vendus.
Ah oui, non, c'est une sacrée somme. Hein. Le coup de pouce, il est important. Alors ça, c'est certain. Il y a une partie qui part à l'œuvre des pupilles. Il y a une grosse partie pour aider les enfants dont le papa ou la maman est décédé en intervention. Et l'autre partie, c'est pour nous aider à améliorer le quotidien au sein du centre de secours.
Et les pompiers s'engagent à utiliser pour de bonnes œuvres, pour une chambre pédiatrique à l'hôpital, le lot qu'ils recevront s'ils gagnent le championnat. C'est une croisière pour deux personnes qu'ils rejoueront à la tombola.
Voilà, il faudra choisir quel pompier partira dans cette croisière. Lannion, face à La Roche-Bernard, on vous épargne la musique d'Interville, mais je vous précise tout de même que vous pouvez voter sur l'Instagram des sapeurs-pompiers de France. Scrutin ouvert ce soir 20h jusqu'à demain 20h. Merci Simon Le Baron. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Patricia Charbonnier. Puis à partir de 13h30, le metteur en scène et auteur de théâtre Sébastien Azopardi avec nous. Mais il est aussi comédien, il est aussi directeur de 3 théâtres et mais également producteur. Une vie pour la scène, voilà ce qu'il va nous raconter. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton, nous suivons toujours les gendarmes qui assurent la sécurité et les secours en haute montagne. Nous allons remonter dans l'hélicoptère. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Virginie Troussier et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Virginie, vous nous parlez des phoques.
Oui, les phoques, ces animaux que l'on croise sur nos côtes et qui ne laissent pas indifférents. Il sera question de rencontres et d'une question plus large, comment vivre avec eux.
Et avec vous, Frédéric, un humoriste.
Alex Ramirez, actuellement en tournée avec son seul en scène Panache et avec le spectacle musical Orso et le secret des étoiles. Et avec lui, nous écouterons une chanson de Sia, The Greatest, le meilleur. C'est qui le meilleur, Jérôme ?
Le meilleur de quoi ?
On ne sait pas, vous le saurez tout à l'heure.
Mais non, mais c'est trop large comme question. Il faut faire des questions plus précises.
C'est un problème. Nous avons un problème.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
France Inter, 20h, Patricia Martin.
Ce vendredi, nouvelle masterclass avec une classe de terminale du lycée Auguste Renoir à Paris. Au programme, cette question, faut-il avoir un don pour être artiste ?
L'heure philo, tous les vendredis à 20h sur Inter.
Les belles promesses, c'est le roman événement de Pierre Lemaître.
Des travaux titanesques dans tout Paris. Un bébé réchappé d'un incendie, le cœur d'un homme écartelé, un monde rural menacé, des femmes sorties de l'oubli et un effroyable dilemme moral. Au bout du chemin, pour la famille Pelletier, ce sera l'effondrement ou l'apothéose. Par bonheur, le chat Joseph veille encore. Les belles promesses, un roman déchirant et enthousiasmant de Pierre Lemaître aux éditions Calman Lévy.
Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSIe à partir de 390 euros par mois sans apport. Réservez votre essai sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
Autonomie maximale selon données WLTP. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour Jérôme.
C'est un temps encore bien nuageux, il y a même de la pluie près de la Méditerranée.
Oui, les conditions météo vont devenir très instables à partir de cet après-midi près de la Méditerranée. C'est un épisode méditerranéen qui est en train de se mettre en place et qui va se prolonger jusqu'à lundi. Donc sur la durée, on va avoir des cumuls localement importants. Les pluies soutenues vont se mettre en place à partir de cet après-midi sur le relief Sévenol avec le vent de secteur sud-est qui va souffler jusqu'à 60 km/h en rafale. Ça reste encore très nuageux cet après-midi entre la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Massif central et jusqu'au sud-ouest. Là, on a les résidus de la perturbation d'hier, mais les pluies sont vraiment très faibles, très localisées. Et puis, on espère quand même revoir un petit peu le soleil sur les Vosges, le Jura, dans le nord et le nord-ouest. Mais dans le nord-ouest, on a encore de l'instabilité, donc avec des averses qui prendront un caractère orageux cet après-midi sur le sud de la Bretagne et sur la Vendée.
Et des températures encore très douces.
C'est un petit peu moins doux qu'en milieu de semaine, mais on est toujours au-dessus des normales de saison de 3 à 4 degrés. Météo France prévoit jusqu'à 17 degrés cet après-midi en Corse, 15 à Marseille, 13 à Besançon, 12 à Paris, Bordeaux comme à La Rochelle, 11 degrés à Lille et 10 degrés à Dijon.
Patricia Charbonnier.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Sébastien Azopardi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. J'ai envie de vous appeler Monsieur Théâtre, puisque vous êtes à la fois, à 50 ans, à la fois comédien, metteur en scène, auteur de pièces de théâtre, directeur de théâtre, le Palais Royal à Paris, le Michel, le Saint-Georges. Vous êtes aussi producteur. Et en ce moment, quatre des pièces que vous avez écrites ou mises en scène sont à l'affiche. Les derniers coups de ciseaux au Théâtre des Mathurins, plus de 4000 représentations, ça dure depuis 15 ans. ADN, c'est au Théâtre Michel, 500 représentations. L'embarras du choix, bientôt la 1300e, c'est au Théâtre Gaîté-Montparnasse. Et Mission Florimond, Théâtre Gaîté-Rive-Gauche, 1100 représentations, la pièce a repris il y a quelques mois. Je crois que j'ai fait le tour du propriétaire, mais j'en suis pas totalement certain, mais on a encore quelques minutes devant nous. 01 45 24 7000 pour vos questions. Vous qui nous écoutez, vous pouvez aussi laisser vos messages via l'application Radio France et l'onglet Réagir. Sébastien Azopardi, j'ai envie de dire que c'était écrit. Vous avez grandi dans un théâtre. Tout vient de là.
Oui, alors, j'ai pas complètement...
Est-ce aussi simple ?
Non, oui, bah, les choses sont pas aussi simples, mais oui, en fait, mon père et son meilleur ami, Francis Nani, ils ont acheté le théâtre du Palais Royal et le théâtre des Variétés à l'époque, quand moi, j'avais 14 ans. Donc, j'ai tout d'un coup, je suis rentré dans ce théâtre incroyable, parce que le théâtre du Palais Royal, c'est un théâtre, un des plus beaux théâtres de Paris, un des plus anciens, un des plus beaux. Et c'est vrai que c'était hallucinant de se dire que bah, c'était comme une deuxième maison. Donc, j'ai vu j'ai commencé à voir plein de troupes travailler, répéter. Et c'est vrai que ça a été un plongeon dans le grand bain immédiatement.
C'est quoi d'être ado dans un théâtre? Vous y passiez des heures et des heures?
Non, j'y passais pas des heures, mais je venais voler quelques moments pour apercevoir des répétitions.
Par exemple ?
Bah, par exemple, j'ai vu Jean Poiret répéter la dernière pièce qu'il a jouée. Et ce qui était assez fascinant, et ce qui m'a énormément marqué avec Jean Poiret, qui était le complice de Michel Serrault, ouais. Pour ceux qui les nouvelles générations qui connaissent pas, c'était un acteur, on ne savait jamais s'il improvisait ou s'il disait son texte ou un texte écrit. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué et que j'essaye d'insuffler dans certaines des pièces, notamment les pièces interactives.
Je voudrais qu'on l'écoute, Jean Poiret. Le canard à l'orange de William Douglas Home. Il en avait réécrit certains dialogues mis en scène de Pierre Mondy, diffusés ici à la télévision française 1979. Comment placer une tirade de Shakespeare dans un grand classique du théâtre de boulevard.
Madame Grey, soyez assez aimable pour porter ces fleurs dans la chambre de Mademoiselle Forsyth.
Jamais, jamais je ne montrerai des fleurs à cette créature.
Tout de suite, Grey.
Non, jamais. D'abord, j'ai pas le temps, le canard est cuit.
Eh ben, le canard, on l'a assez attendu pour qu'il nous rende la politesse. Obéissez, Madame Grey, ou craignez ma colère. Dieu, Dieu qui entend tout, écoute-moi. Suspends ton dessein. Si tu avais décidé de rendre cette femelle féconde. Que souffle dans sa matrice le vent glacé de la stérilité. Que ses organes deviennent plus secs que les foins de la grange. Et que si jamais elle engendre, ce soit d'un enfant de vinaigre et de fiel. Portez ça immédiatement, Madame Grey, portez ça immédiatement. Je ne sais pas ce que je fais de vous. Je ne sais pas ce que je fais.
Tirade issue du Roi Lear dans du théâtre de boulevard, il fallait oser, ça vous a inspiré ça?
En fait, le canard à l'orange, je l'ai regardé en boucle quand j'avais 14-15 ans. Donc c'est incroyable de retrouver cet extrait là maintenant. C'est vrai que ce qui était inspirant, c'est d'insuffler, comment dire, une originalité, un décalage, une absurdité à l'intérieur de moments qui pouvaient être banal, quoi. Et c'est vrai que il a porté Poiret et Serrault, et ils ont porté le divertissement au rang d'art, et c'est ce que j'essaye de faire aussi. Jean Poiret, pour le rappeler, c'est l'auteur de La Cage aux Folles. On a beaucoup parlé de La Cage aux Folles, l'adaptation de Broadway, et en fait, celui qui a créé La Cage aux Folles, c'est Jean Poiret.
Vous êtes devenu, Sébastien Azzopardi, une star de la mise en scène. Est-ce que vous rêviez d'être une star sur scène quand vous étiez plus jeune, d'être Jean Poiret, d'être Michel Serrault, ou d'entrer à la Comédie Française?
Non, j'ai jamais rêvé de rentrer à la Comédie Française, bien que j'adore cette maison, et j'y allais beaucoup, notamment quand j'étais collégien, j'ai vu énormément de spectacles là-bas, dont d'ailleurs une mise en scène qui m'a beaucoup marqué et qui a marqué mon théâtre, qui est une mise en scène de Dario Fo, du Médecin malgré lui, avec Richard Fontana, et ça a été monté comme une comédia dell'arte, c'est-à-dire qu'il y avait le texte de Molière, mais il y avait aussi des improvisations. On cassait le quatrième mur, l'acteur Richard Fontana tombait dans le public, improvisait avec les gens, ça faisait scandale à l'époque avec les abonnés de la Comédie Française, certains abonnés n'étaient pas du tout heureux, et moi, je sais pas, j'ai dû voir ça à 12-13 ans, et ça m'a transporté. Et c'est vrai que petit à petit, quand j'ai commencé à faire de l'interaction et casser moi-même le quatrième mur, eh bien, c'est un peu pour retrouver cette première énergie que j'avais rencontrée.
Mais vous vous êtes dit à un moment, c'est plus intéressant au fond d'être metteur en scène ou d'écrire des pièces plutôt que d'être comédien? Ou bien vous avez essayé de l'être et puis, ou en tout cas d'être tout en haut de l'affiche et puis voilà, ça n'a pas fonctionné?
Non, en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai voulu être metteur en scène pour m'offrir à moi, comédien, des rôles intéressants. Et puis petit à petit, le métier de metteur en scène a pris finalement plus d'importance. Je me suis mis un peu en retrait, puis je finissais par reprendre des rôles dans toutes mes pièces. À chaque fois qu'un comédien manquait, j'arrivais pour le remplacer. Et puis à un moment, je me suis dit, bah tiens, la prochaine fois, je jouerai le rôle que j'écris, et c'était pour L'embarras du choix. Quand on a écrit avec Sacha Danino L'embarras du choix, je l'ai écrit pour pouvoir jouer le rôle, pour pouvoir improviser, jouer avec le public et jouer et jouer aussi en même temps du théâtre, parce que c'est du théâtre, il y a de l'improvisation et il y a presque comme du stand-up avec le public.
Exactement, particularité de ces pièces. Certaines d'entre elles, on n'en connaît pas la fin, et les comédiens s'adressent directement à nous, s'adressent directement aux spectateurs, ce qui donne une autre dimension au spectacle. Vous parliez de L'embarras du choix, qui est donné en ce moment au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Je vous propose d'écouter quelques commentaires glanés après la pièce, sur le trottoir juste devant.
Sacha Malo, Alex, regarde qui est là, Dédé Pastis. Qui va m'aider sur ce coup-là?
Vraiment ravi de cette pièce parce que c'est un peu nouveau, effectivement, ce côté immersif. L'acteur sollicite le public à plusieurs reprises et en fonction des choix qu'on lui émet, il va réorienter, il va changer le décor. C'est vraiment top, hein, c'est vraiment super.
Ah oui, c'est nouveau, c'est la première fois que je voyais ça. Et ça donne une pièce originale avec plein de fins possibles. C'était assez naturel, on n'avait pas l'impression qu'il devait switcher d'un scénario à l'autre, donc c'était bien.
Oui, justement, je me demandais s'il y avait à quel point il y avait de l'improvisation, mais c'est très impressionnant. Enfin, en tout cas, on était vraiment dans l'histoire.
C'est une super bonne idée parce que bah, peut-être que ça peut nous ennuyer parfois, les pièces de théâtre.
Est-ce que je me dévoile, j'ouvre mon cœur, ou bien au contraire, je m'approche plus fine et je tape le terrain? Brenda, je tape le terrain? D'accord.
Et à notre âge surtout, et que là, bah, on a l'impression qu'on est avec la personne qui joue.
Tu fais de la musique, toi?
Je chante.
Oui, bon, on en est au même stade, quoi.
Il y a un côté, effectivement, rafraîchissant de communication avec le public, et ça remet le théâtre, je trouve, dans quelque chose qui est utile socialement et qui fait du bien aux gens, quelque chose auquel tout le monde a accès. Quand on est dans l'interaction et dans l'échange, tout le monde peut communiquer avec le théâtre.
C'est pas la première fois que vous la voyez, la pièce?
Non, c'est la deuxième fois, là. En fonction des choix, les dénouements diffèrent.
On va revenir pour voir une autre version.
Voilà, ces spectateurs de l'embarras du choix interrogés par Cécilia Arbona. Comment ça marche, Sébastien Azopardi, pour vos comédiens? Et vous en êtes. Parfois, il y a de l'improvisation. On sait un petit peu quelles vont être les remarques, les questions dans la salle. Donc, on a déjà un peu un fil entre nous.
Alors, c'est un mélange des deux. C'est un mélange de choses qu'on essaye de prévoir au moment où on écrit, avant de plonger dans l'arène et de la première représentation. Et c'est après un mélange de connaissances du public qui va, soir après, qu'on va apprivoiser soir après soir, on va dire. Donc il y a des choses, évidemment, des remarques qui reviennent. Donc moi, par exemple, quand j'ai créé L'embarras du choix, je pense que j'ai improvisé pendant 3 mois quasiment tous les soirs. La pièce, au départ, faisait 1,35, elle fait 1,50 aujourd'hui. Et donc, il y a eu 25 minutes d'improvisation qui ont donné beaucoup de densité au dialogue avec le public. Et effectivement, à l'intérieur, tous les soirs, maintenant, il y a des choses nouvelles et il y a un chemin d'improvisation qui nous permet de ne pas être perdu et de donner la même qualité tous les soirs. Et à l'intérieur de ça, il y a évidemment des libertés et surtout un échange toujours neuf avec le public.
C'est impressionnant de voir les comédiens aussi réactifs. Moi, je suis allé voir les derniers coups de ciseaux hier soir, et à la première question, première remarque d'un spectateur, vos comédiens, ils partent au quart de tour, en fait. Ils réagissent tout de suite. On a l'impression qu'ils connaissent leur texte.
Ils connaissent leur improvisation.
Ah oui,
oui, alors, d'abord...
Et c'est toujours à propos, et ça ne dure pas 4 secondes pour dire qu'est-ce que je vais dire. Ça fuse.
Oui, ça fuse. D'abord, effectivement, d'abord, quand on est en état de devoir improviser, notre cerveau va à 2000 à l'heure. C'est vraiment, il y a quelque chose, on est conditionné pour ça, et quand la personne commence à nous interpeller, bah c'est sûr qu'on a une sorte de mécanisme même de défense, parce qu'on est suspendu devant le vide, donc le texte finalement arrive assez vite. Ouais.
Comment est-ce que vous choisissez les comédiens? Est-ce que tous les comédiens sont d'accord pour ce principe-là? Et est-ce que tous les comédiens sont doués aussi pour ça?
Non, tous les comédiens ne sont pas doués pour faire ce genre de pièce. C'est un registre assez particulier. Et en fait, il faut arriver, et je le vois quand je fais passer des auditions, j'essaye de faire travailler, pendant mon audition, un dialogue avec un public, avec les gens qui sont dans la salle. Pour certains comédiens, c'est assez difficile. Pour d'autres, il y a une aisance. Et en fait, il faut traiter le spectateur comme si c'était un acteur qui intervenait et qui avait son texte. Et il faut lui répondre avec la même simplicité, je dirais. Il ne faut pas en faire un... Et ça, tout le monde n'arrive pas à le faire. C'est quelque chose d'un peu particulier. On arrive, quand je fais des auditions, j'arrive à le sentir assez vite. Ouais.
Plus de 4000 représentations pour Les Derniers Coups de Ciseaux, 1300 pour L'Embarras du Choix. Tout cela sans comédien ultra connu, sans tête d'affiche. C'est quoi la recette, Sébastien Azopardi?
Alors, je ne sais pas s'il y a une recette, mais en tout cas, ce sont des pièces, effectivement, qui n'ont pas de tête d'affiche, mais c'est aussi pour ça qu'elles peuvent rester à l'affiche, parce que les spectateurs ne viennent pas voir un comédien, ils viennent voir un spectacle. Avant tout, un spectacle et un concept. Il y a un concept fort, dans Dernier Coup de Ciseaux, c'est « Venez enquêter avec les comédiens. Mm-hmm. Dans l'embarras du choix, c'est venez aider le personnage à faire les choix difficiles de sa vie. ADN, c'est on va plonger dans un thriller immersif où les comédiens vont envahir le plateau, il va y avoir des courses-poursuites dans la salle, etc. Mission Florimond, c'est une sorte, pour résumer ça très rapidement, on va dire c'est Astérix, Mission Cléopâtre sur scène. Donc à chaque fois, c'est une promesse de quelque chose d'inédit. Et c'est pour ça que ça marche, et c'est aussi pour ça que ça peut durer longtemps, parce que il n'y a pas tellement de concurrence.
Est-ce que vous réécrivez le texte ? Je vous dis ça parce que hier soir, l'un des comédiens a fait référence à cette réplique de Jordan Bardella sur un plateau télé qui lui vaut aujourd'hui beaucoup de moqueries. Mais où trouve-t-il toute cette énergie ? Et c'est sorti dans la bouche d'un comédien. Ça a quelques semaines seulement. Oui, oui. Donc ça veut dire que vous réécrivez ?
En fait, là-dessus...
Ou c'est de l'improvisation ?
Là-dessus, c'est de l'improvisation. Les comédiens sont libres d'intégrer dans Dernier coup de ciseau et dans Mission Florimond, beaucoup moins dans les deux autres pièces, sont libres d'intégrer des références à l'actualité.
François est avec nous. Bonjour François.
Oui, bonjour.
D'où nous appelez-vous ?
Je vous appelle de Chatou. Je suis le représentant d'une petite association de promotion du théâtre.
Très bien.
Paris et son boulevard.
Quelle est votre question, François ?
Allô ?
Oui, quelle est votre question ?
Alors, ma question est la suivante. Est-ce que Sébastien... est favorable au retour des trois coups qui sont frappés avant chaque représentation. Merci.
Merci François pour cette question. Trois coups qui ont en partie disparu, Sébastien Jopard.
Oui, c'est vrai que les trois coups ont tendance à disparaître parce que il y a de plus en plus de musique de scène. En fait, les trois coups servaient
les trois coups, c'est des trois coups qu'on
pour
entend
démarrer,
pour
oui.
démarrer la pièce.
Pour
hein.
démarrer la pièce, oui. Alors, maintenant, il y a souvent des annonces portables. On demande aux gens d'arrêter. Donc, ça commence déjà à signifier aux spectateurs que le spectacle va commencer. Donc, il y a souvent une annonce qui est ou enregistrée ou fait en live par un ouvreur. Et il y a souvent de la musique de scène, une vraie musique. Donc, c'est vrai que l'annonce, la musique, les trois coups ont du mal à trouver leur place. Maintenant, je les ai intégrés dans Mission Florimond, puisqu'on est dans une intrigue qui se passe au XVIe siècle, et donc il y a un côté théâtre de Tréteaux, et je trouvais que ça allait bien avec les trois coups. Donc ça dépend des mises en scène.
Merci d'avoir été avec nous. Sébastien Azopardi, quatre pièces à l'affiche en ce moment à Paris, Mission Florimond, L'embarras du choix, ADN, et Les derniers coups de ciseaux, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Notre feuilleton nous emmène en haute montagne depuis lundi avec la section aérienne de gendarmerie et les secouristes du PGHM de Briançon. Ils assurent les secours, notamment des skieurs. Et dans le dernier épisode aujourd'hui, nous sommes avec le commandant des gendarmes, pilote d'hélicoptère et des mécaniciens, bientôt à la retraite. Il fait le constat d'une montagne qui change vite et de secours qui doivent s'adapter.
On va partir sur un secours à Puy-Saint-Vincent, une personne qui s'est cassée un fémur. Voilà, donc on va décoller d'ici 5 minutes là. Donc on prépare la machine. Bonjour, je suis le chef d'escadron Eric Guichard. Je suis affecté à Briançon depuis 2009. J'ai 57 ans et je suis rentré en gendarmerie en 1988 et très rapidement qualifié sur le C145C2 gendarmerie. Voilà, cette machine qui se trouve derrière moi. Forcément, je la connais bien puisque je la pratique depuis longtemps. J'ai plusieurs milliers d'heures de vol dessus.
Ouais, je dis, j'étais chouka, tu veux y aller à l'hôpital, on sera posé 2 minutes, hôpital.
Alors, quand je suis arrivé dessus, dans les années 2000, les conditions météorologiques, aérologiques étaient vraiment très bonnes. Et au fil du temps, on a pu se rendre compte que on a l'été des réchauffements qui sont de plus en plus importants. Et aujourd'hui, le 145C2 est arrive à bout de souffle. L'hélicoptère est très sensible au niveau aérodynamique, aux températures. Donc quand il fait très froid, il est très performant. Quand il fait très chaud, il l'est beaucoup moins. Et l'ISO 0, l'été, se trouve globalement dans les zones des 4005. Voilà. Et aujourd'hui, on a des ISO 0 qui montent à 5006, voire 6000 mètres. Dans les zones dans lesquelles on travaille, c'est-à-dire 4000 mètres, l'été, ça devrait être négatif. Or aujourd'hui, on atteint parfois 12 degrés à 4000 mètres. Donc forcément, moins bonne densité, moins de portance. Enfin, ce qui se passe surtout, c'est que les moteurs, et il fait très chaud, sont au maximum de leur rendement. Et un hélicoptère en stationnaire à 4000, 4008, quand il fait très chaud, ben, il ne tient pas. Tout simplement.
Allez,
Applause.
C'est à la mise en route de l'hélico. Ça, on part direct à Puy-Saint-Vincent et on y sera dans 6 minutes. Depuis, je dirais, une dizaine d'années, il y a quand même un changement de température et des changements de conditions aérologiques en montagne qui sont assez importantes. Notamment, on a beaucoup plus de vent. Il est assez déstabilisant. Il y a quelques années, j'ai fait un secours dans la barre des Écrins pour aller récupérer deux alpinistes qui étaient épuisés. Le but pour nous, c'était, enfin pour le mécanicien de bord et le pilote, c'était d'être très rapide. C'est-à-dire qu'il fallait rapidement qu'on pose le secouriste pour vite dégager, parce qu'on ne tenait pas longtemps. En fait, on arrivait à tenir à peu près 10 secondes le stationnaire à cette altitude, qui est à peu près 3700 mètres. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on est arrivé, on a pu poser le secouriste. À ce moment-là, j'ai eu une perte de puissance, donc l'hélico a plongé dans le vide. Alors, c'est une zone, il y a 800 mètres de vide autour de nous, donc nous on risque pas grand chose, mais par contre le secouriste au bout du câble, lui il risque. Et ce qui s'est passé, c'est que le secouriste a percuté et a compris qu'il y a un truc qui allait pas, il a vu l'hélico, il a couru sur la vire et s'est jeté dans le vide. Et donc on a rattrapé forcément la machine, hein, puisqu'on avait pas mal de vide sous nos pieds. Donc après il a fallu y retourner, quoi. Alors, j'avoue que c'était assez compliqué. Des petites histoires comme ça, dans une carrière de plusieurs milliers d'heures de vol, j'en ai quelques-unes, mais celle-ci, j'avoue que ça a été cliffhanger, quoi, donc c'était assez impressionnant. La montagne reste quand même plus forte que nous, voilà, donc il faut rester très humble et rester surtout très prudent.
Une semaine dans leur vie, signée Erwan Chassin cette semaine, réalisation Vincent Godard. Vous retrouvez les 5 épisodes sur le site et l'application Radio France.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le vendredi 13h50, la France des cimes et des océans avec Virginie Troussier. Aujourd'hui, Virginie, nous partons en Bretagne à la rencontre d'un mammifère marin, le phoque.
Il y a 3 ans, Jérôme, un matin d'hiver tempétueux à Concarneau, je navigue en planche à voile. Alors que je reprends mon souffle dans le bouillon des vagues, j'aperçois au bout de la baie déserte une tête hors de l'eau. Je me demande à qui appartient ce chien qui risque de se noyer. Puis la petite tête remonte jusqu'à moi et me fixe de ses 2 billes noires. Je réalise alors que c'est un phoque. Nous sommes face à face, tout proche. Et je me trouve aussi surprise que cet animal qui semble m'adresser une question traversant la barrière des espèces. Qui es-tu ? Une bourrasque nous surprend, il disparaît dans les profondeurs et je repars vers le large. Cette anecdote fait écho à la rencontre décrite dans le dernier roman de Vincent Message, La folie océan, paru en septembre dernier. L'un des protagonistes raconte sa plongée avec un phoque, non loin de l'archipel des 7 îles, au large de Perros-Guirec. Et il confie : on aurait vraiment dit, tu vois, qu'il voulait faire ma connaissance.
C'est donc un animal très sympathique.
Oui, est-ce lié à son corps dodu, son regard humide, curieux, ou à la pose qu'il prend parfois sur les rochers en position de banane, les palmes repliées le long de son corps pour ne pas se refroidir. On connaît aussi son intelligence, sa fidélité et son goût du jeu. On sait qu'il est un vrai routard des mers, capable par exemple de traverser la Manche en 48 heures. Si vous remarquez plusieurs d'entre eux hors de l'eau, vous verrez que chacun a sa stratégie pour se fondre dans le paysage. Les veaux marins à la robe claire s'alignent dans une discrète harmonie avec le rivage, donnant l'illusion d'un banc de sable, et les phoques gris, eux, s'entassent pour mimer une barrière rocheuse.
Alors justement, Virginie, si nous les apercevons, que faut-il faire ?
Alors, voir des phoques sur nos côtes est d'abord une bonne nouvelle pour la biodiversité marine. Ils étaient très présents au 19e siècle, et ils ont ensuite été chassés jusqu'à leur quasi-extinction. Ils sont de retour depuis les années 80, mais la fréquentation du littoral les perturbe. Il faut donc absolument rester à distance. En janvier, on observe des jeunes phoques sur les plages. Après les naissances d'automne, au moment du sevrage, ils se retrouvent très vite seuls, sans savoir pêcher, vivant sur leur réserve de graisse. Si l'un d'eux semble en difficulté, il est possible de contacter l'Océanopolis de Brest, qui dispose d'un centre de soins. Et pour mieux les observer et les protéger, la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc lance cette année le projet Objectif Phoque, ouvert à tous. Une forme d'éco-volontariat qui rappelle que les actions les plus justes se mènent d'abord sur le terrain.
Ces rencontres, au fond, posent une question essentielle. Comment vivre avec eux ?
En effet, Jérôme, et c'est précisément la question que pose le très beau film Animus Femina, que je vous recommande vivement. Il met en lumière l'engagement de 4 femmes, nous incitant à repenser notre rapport à la faune sauvage. Parmi elles, Sarah Labrousse, chercheuse au CNRS, spécialiste des phoques. Elle a décidé, dit-elle, de consacrer son existence à décélérer l'extinction du vivant. Elle ajoute encore, quand j'étudie ces espèces, je me demande comment maintenir ces liens faits d'échanges, de flux, d'émerveillement. La chercheuse nous invite au fond à aller au-delà du simple regard, à comprendre comment ces animaux vivent afin de mieux se côtoyer. Alors les observer, oui, mais peut-être aussi apprendre à voir de leurs propres yeux.
Et ce film Animus Femina est actuellement présenté dans quelques salles en France ce soir à Valence et à partir de la semaine prochaine en Bretagne. Merci Virginie Troussier chaque vendredi dans ce 13-14 de C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est l'humoriste Alex Ramirez que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro Frédéric.
Alex Ramirez qui joue le rôle du soleil dans le conte musical Orso et le secret des étoiles, spectacle actuellement en tournée. Et c'est de la chanteuse australienne Sia qu'il a souhaité parler.
Quand je découvre Sia, je viens d'arriver à Lyon, je quitte les parents, je m'installe dans ma chambre étudiante et j'écoute, Breathe Me, voilà c'est ça. Et je découvre une espèce de mélancolie, une voix hyper éthérée. Je découvre qu'elle appartient au groupe 07, je décide d'en faire un exposé à la fac.
Vous étiez en fac de quoi ?
J'étais en fac de histoire de l'art, lettres modernes, cinéma audiovisuel.
Et vous avez fait un exposé sur Sia ?
Ouais, sur Sia. Je voulais avoir, vous savez, un peu un côté, j'improvise, genre, elle est née en nananin, ce qui nous fait qu'elle a, et en fait j'avais écrit son âge, ce qui nous fait qu'elle a 33 ans, je me rappelle mes potes s'étaient foutus de ma gueule parce qu'ils avaient vu en gros écrit le 33, comme si je venais de calculer comme ça. Donc voilà, Sia, ça a bercé toute ma post-adolescence. J'allais même la voir en concert avec mon meilleur ami à l'époque où elle avait encore le visage découvert à l'Olympia. Première fois à l'Olympia, première fois à Paris. On oublie les places, gare de Lyon, on retourne dans un hôtel qui n'a pas de salle de bain. On reprend les places, on arrive quand même devant et on découvre Sia en tenue de chantier qui chante « Some people have real problems ». Pardon mon accent, mais c'était son album avant qu'elle crie et qu'elle s'accroche à un chandelier.
Alors, ce morceau de Sia, Frédéric, s'appelle The Greatest.
Traduction, le meilleur. Un tube sorti en 2016, trois mois après la tuerie homophobe perpétrée à Orlando. 49 morts dans une boîte de nuit LGBT. Sia y fait quelques allusions dans son texte, tout en invitant chacun à ne jamais abandonner. Et cette chanson rappelle à Alex Ramirez un autre moment de sa vie.
On est encore à Lyon, je sais pas combien de années de fac, hein, ça avance. Et je parle de mon homosexualité. En tout cas, dans ma famille, ça commence à se savoir, j'en parle à mes amis. Et un soir, un anniversaire avec des amis, et là, un proche de ma famille qui m'annonce qu'il n'est pas du tout OK avec ça. Et donc, c'est la première fois que je vis le rejet sur quelque chose que je ne peux pas maîtriser. Qui est un rejet pur, qui est un message très violent. Et je pars de l'anniversaire, et j'ai jamais eu aucune pensée noire, mais à un moment, on passe sur un pont et on se dit « Est-ce que ce ne serait pas plus simple ? Est-ce que ce ne serait pas plus simple ?» On pense à ça et après on se dit non, on va mettre de la musique. Et on arrive place de la Croix-Rousse et il y a The Greatest qui passe dans nos oreilles. Et là je me mets à danser, il fait nuit, hein, c'est minuit, il fait nuit, il n'y a personne sur la place. Et je me dis, eh ben, au moins pendant 3 minutes je vais être The Greatest et je vais essayer de garder ce sentiment. Et en fait, dès que j'ai ce sentiment de rejet face à une homophobie débile et pure, souvent je vais mettre cette chanson qui parle en plus de ça. Et d'habitude c'est pas aussi littéral, mais là vraiment cette chanson me permet vraiment d'avancer. On sait pas ce qui va se passer, mais pendant au moins 3 minutes on est le meilleur. Et ça a été mon hymne. Je pense que ça l'est pour beaucoup de personnes. Mais c'est génial le pouvoir que la musique peut avoir et certaines paroles, il y a une espèce de litanie, elle répète, elle dit je suis vivante, je suis la meilleure, je suis le meilleur et qu'est-ce que ça fait du bien.
Cette personne de votre famille qui a eu ces mots à votre endroit quand il a su votre homosexualité, c'est une personne que vous continuez à voir ?
Que je n'ai pas vu tout de suite après, qui s'est excusé, que je me suis remis à voir, puis qui m'a redéçu. Enfin, en fait, à chaque fois, c'est un espoir dingue et à chaque fois, c'est déception. Et là, en termes d'actu, concernant les rapports avec cette personne, on est sur un... Ça ne m'intéresse plus, j'ai envie d'avancer. Je vais me concentrer sur les personnes qui m'acceptent et ça sera plus simple. Ouais, il faut avancer, quoi.
L'homophobie, c'est quelque chose que vous subissez régulièrement ?
Mais pas tant, c'est pour ça que tu étais très violent. Ça a été justement un coup de poignard. Sinon, le reste, on avance. Et je suis vraiment pas victime d'homophobie, même par message, même sur Internet et tout. C'est vraiment OK. C'est pour ça que ça a été encore plus violent, du coup, quand c'est quelqu'un de proche.
Donc cette chanson-là, dès que vous avez un coup de blues, elle a le pouvoir de vous remettre dans la joie.
Mais un coup de blues vraiment par rapport à ça.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes que Sia qui vous disent aujourd'hui que vous êtes le meilleur ?
Ah oui, mais là, c'est trop tôt pour me faire pleurer. Et puis oui, enfin, qui me le montrent, qui sont juste là, quoi, et qui sont juste pas dans le jugement. Donc oui, je suis très aimé, je suis aimé d'amour aussi, donc je suis dans un cocon de joliesse.
The Greatest, c'était donc Frédéric, le choix de l'humoriste Alex Ramirez.
Alex Ramirez, que vous pouvez retrouver en ce moment dans le spectacle musical Orso et le secret des étoiles. Spectacle en tournée jusqu'au printemps.
Merci Frédéric et à lundi, gardons The Greatest. Pour les remerciements de cette semaine à la rédaction en chef Cécilia Arbona, Lionel Thompson, Sonia Princé, Sébastien Sabiron, assisté de Sylvain Lesage, Nicolas Sabat, Swad Bellani et Rachid Zourdani, à la technique Loïc Frapsos et Julien Dumont, nos attachés de production Camille Poux-Jalaguier et Aurore Mansip, je n'oublie pas nos standardistes. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Mathieu, dans la Terre au carré,
bah nous aussi,
dans
the great...
quelques minutes ouais, sur nous France aussi. Inter.
On a The Greatest, mathématicien français, il s'appelle Stéphane Mallat.
Ah, eh bien, vous êtes là, eh on oui. Vous entendait pas.
Ah ben voilà, je vous disais qu'on avait The Greatest, nous aussi, avec nous. Grand mathématicien français Stéphane Mallat, qui vient de recevoir la médaille d'or du CNRS.
Parfait, ça colle parfaitement. Merci Mathieu, à tout de suite.